Nous vous invitons des jeunes et pourquoi pas des moins jeunes à la lecture et pourquoi pas combiner le tout avec le baseball, avec les œuvres de notre ami Bob McDuff. Allez sur le site baseballbob.ca. Il y a deux autres livres qui vont sortir au cours de l'année. Ce sont des bandes dessinées accessibles aux jeunes et comme je le mentionnais, avec un thème que les jeunes vont apprécier, surtout les plus actifs, le baseball comme thème central. Marc, notre profil cette semaine, Harrison Bader, on en a parlé un petit peu plus tôt. C'est un joueur qui n'a pas le physique qu'on demande aujourd'hui. Tu comprends? On veut des athlètes. Malgré tout, il a attiré l'attention des Cards de Saint-Louis. Il n'a pas été repêché, lui, à l'issue des écoles secondaires. C'est un gars de la région de New York. Peut-être qu'on les aime plus, Marc, en Californie, au Texas, dans la Floride. Donc, peut-être en étant de New York, on avait un biais négatif. Il est descendu dans le sud pour jouer son baseball universitaire avec l'Université de la Floride. Puis finalement, Marc, on l'a repêché. Troisième tour, donc les Cards ont vu quelque chose. On parlait tantôt de joueurs qui se marient bien avec une équipe. Les Cards ont un champ extérieur vaste. Bader correspondait à ce genre de profil. C'est un gars qui a excellent en défense depuis le début de sa carrière. Il a reçu un gant d'or. Sixième au titre de recrue de l'année en 2018, sa première année. Sa meilleure saison dans le baseball majeur, Marc, c'est l'année où il a gagné le gant d'or. 16 coups de circuit, 50 points produits, 7,85 son MPP. Je ne dis pas que c'est l'ensemble de sa carrière, je dis juste qu'il était capable de produire. Et sa dernière saison, Marc, c'était sa deuxième meilleure après l'année 2021. C'est un gars recherché, c'est un gars intense. On sait ce qu'on va avoir avec lui. Parfois, il donne l'impression d'être un peu au-dessus de ses affaires, mais Marc, quand il est sur le terrain, il donne ce qu'il a.
Ouais, puis c'était, tu sais, tu parlais des Cards, là, c'était un énorme prospect. Moi, je me souviens lorsqu'il est arrivé avec l'équipe des Cards, tu sais, on parlait en lui comme le futur voltigeur de centre. Puis il y a eu des bons avec les Cards au fil des années, des voltigeurs de centre. Bader faisait la partie de cet avenir-là des Cards et tu l'as dit, bon, on a connu de très, très bonnes saisons. T'as raison, tu sais, lui, là, la ligne fine entre la confiance puis l'arrogance là, des fois là c'était mais écoute il s'est quand même forgé une belle carrière Harrison Bader et je pense qu'il va avoir quand même un impact tu sais sans dire important on va quand même sentir sa présence avec les Giants de San Francisco au cours de la saison 2026.
Oui, puis dans le baseball mineur, pourquoi on l'avait en haute estime? C'est quand même un MPP pour l'ensemble de sa carrière dans le baseball mineur de 8-22. Donc, il produisait au niveau 3A. Puis les Cards l'ont amené. C'est exactement le genre de joueur qu'on veut. Des Cards dans leurs meilleures années, là, on ne parle pas de 2025. Là.
Et donc?
Mais, historiquement, on était capable de produire des joueurs qui remplaçaient ceux qui partaient. On était judicieux dans nos embauches de joueurs autonomes. Je pense à Matt Holliday, Carlos Beltran. Ce sont des joueurs qui sont bien moulés, des belles acquisitions également. On a perdu un peu cette façon de faire au fil des années chez les Cards de Saint-Louis. Je pense en voulant prendre des raccourcis, puis ça les a rattrapés à un moment donné. Quand tu prends des mauvaises décisions au deuxième étage, Marc, tu payes toujours pour ça. Peu importe, je pense, l'épaisseur de ton portefeuille à un moment donné. Puis Harrison Bader, ben lui, qui faisait partie de la belle famille des Cards de Saint-Louis. Et comme je le mentionnais, là, on l'a mentionné enfin un peu plus tôt, c'est un bon mariage avec les Giants de San Francisco. À mon avis, ça se peut qu'il ne frappe pas 10 coups de circuit ou qu'il ne frappe pas... Mais regarde, il va donner, je pense, bonne défense puis un complément à l'attaque. Marc, chez les Aces de Sacramento qui s'en vont à Las Vegas, sont en train de se préparer justement pour le déménagement. Là, il y a un autre joueur qui a signé un contrat de plusieurs saisons, c'est Jacob Wilson, qui s'ajoute à Brent Rooker, à Lawrence Butler, à Nick Kurtz. Il y a juste Langelier qui n'a pas signé de contrat de plusieurs saisons. Mais c'est quand même un noyau. L'exemple à suivre pour plusieurs, c'était les Indiens de Cleveland du début des années 90. On s'en va là chez les Aces.
Absolument. Et tu fais bien de parler des Indiens de l'époque. On se préparait à rentrer à l'époque dans le Jacobs Field. On est arrivé là préparé avec une équipe, avec des joueurs étoiles, des jeunes qui avaient poussé. En fait, c'est Soderstrom, Alain, qui a un contrat à long terme. Nick Kurtz était recrue l'année passée.
Exact.
On sait que ça va s'en venir, mais quel noyau, Alain? C'est un noyau, là. Ben, Kurtz, on en parlait, mais c'était une recrue l'année passée, mais il va jouer sur ses 23 ans. Soderstrom va avoir 24 ans cette année. Évidemment, Wilson a 23 ans actuellement et Butler a 25 ans. Donc là, Tu te retrouves là, vraiment avec un noyau de quatre très bons athlètes. Et là, on pourra ajouter évidemment les autres autour de lui, là, mais regarde, Alain, c'est comme ça que tu vas avoir des billets à vendre si tu vas à Las Vegas. C'est juste un peu frustrant pour les partisans des A's d'Oakland, parce que si on avait agi de même à l'époque d'Oakland, on aurait gardé nos bons joueurs. Mais là, au moins, on est en train de tourner la page. C'est comme ça que tu vas t'aider. Tu sais, la réaction là, des gens sur le contrat de Jacob Wilson, c'est non, c'est bien pas cher. Ben, c'est parce que là, on compare toujours à l'argent qui est donné au gros nom. Puis tu sais, juste remettre un peu dans le contexte, Alain, rapidement, là, c'est que vous savez, des contrats de 30 millions par année, là, c'est 5 % des joueurs du baseball majeur. Fait, il y a 95 autres % là. Tu sais, qui font pas 30 millions par année, ne sont pas à plaindre, là. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui fait 30 millions par année. Puis c'est pour ça que, encore une fois, je fais ma petite parenthèse pour le conflit éventuel de 2027. Mais non seulement on s'entend pas chez les propriétaires, mais c'est complètement inégal ce qui se passe chez les joueurs. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que les propriétaires seraient prêts vraiment à donner beaucoup plus d'argent aux jeunes joueurs. Alain, on en a parlé souvent, là, d'aller chercher. Tu sais, de 24 à 30 ans, on peut t'en donner de l'argent. C'est après 30 ans qu'on veut plus t'en donner tant que ça. Puis c'est l'inverse qui se produit actuellement parce que t'as l'impression qu'on paye le gars pour la feuille de route du passé et non de l'avenir. En tout cas, toujours est-il que c'est... Tu sais, les Braves d'Atlanta, Alain, qui est peut-être l'autre équipe qu'on pourrait comparer un peu, qui donne des contrats à long terme. C'est sûr que là, les Braves, bon, les blessures d'Acuna... Mais ça reste que d'avoir signé ces gars-là, aujourd'hui, c'est pratiquement des contrats à rabais. Puis tu gardes un noyau ensemble pendant plusieurs années. Tu te donnes une chance, année après année, d'être compétitif. Alors, bonne recette. Moi, je suis content de voir les A's agir de la sorte. Je pense que c'est la meilleure façon de faire, surtout sachant qu'ils vont entrer dans un nouveau stade au cours des prochaines années.
Ouais, je sais pas qui va lancer pour les Aces, mais au moins on va frapper. Regarde, c'est un peu la façon qu'on va voir les choses. La Classique mondiale, c'est le mois prochain. Et là, on a vu plusieurs nouvelles marques qui frappent particulièrement les joueurs latino-américains âgés, on va le dire, là, qui sont autour de 35 ans. C'est que dans certains cas, je pense que les plus connus sont Correa et Altuve, là. Ne joueront pas parce que leurs contrats ne sont pas assurés ou assurables. Ça dépend du point de vue, là. Donc, c'est un peu triste, Marc. C'est une belle fenêtre. On l'a vu lors de la dernière Classique mondiale. Bon, écoute, moi, je trouve qu'il est mal placé, ce tournoi-là, parce que c'est au camp d'entraînement, les joueurs sont pas au maximum, mais bon, c'est une belle fenêtre pour faire connaître le baseball sur le plan international quand même. De voir des joueurs de qualité pas être capables de représenter leur pays, c'est sûr que c'est une tâche.
Bien, surtout que, bon, les Américains, cette année, se disent, on va remplir ça de joueurs étoiles. C'est spectaculaire. Ça me fait penser un peu au Dream Team de l'époque au basketball. Ouais. Évidemment, c'est pas les Olympiques, là, mais ça reste que... T'as l'impression qu'il y a quand même un engouement à chaque classique mondial, tu vois qu'il y a de l'intérêt davantage. Puis les gars qui ont hésité au fil des dernières se disent, écoute, il faut que je participe à ça parce que ceux qui ont participé ont adoré. T'sais, puis représenter ton pays, ça donne quelque chose. Mais là, les assurances. C'est sûr que, et je pense que l'équipe de Porto Rico là, s'est fait pas mal, je dirais pas avoir là-dedans, là, mais c'est une équipe qui a été ciblée au point où on a menacé de dire, ben garde, on n'ira même pas à la Classique mondiale. Ouais. Là, je sais que le commissaire Rob Manfred s'est impliqué personnellement. Il veut étudier chacun des dossiers. Là, je ne sais pas s'il va s'asseoir avec la compagnie d'assurance, mais en tout cas, je sais qu'on a déjà libéré, entre guillemets, du fait qu'ils vont pouvoir jouer. Là, c'est deux releveurs de l'équipe de Porto Rico. Mais ça reste que, bon... Regarde, t'es propriétaire du baseball majeur, Alain, ton gars, il te coûte 25 millions. Est-ce que tu veux l'assurer pour aller faire une compétition au mois de mars, avant le début de la saison? Fait que, tu sais, je comprends tout le processus. Mais en même temps, tu sais, c'est une belle vitrine pour le baseball de se faire connaître un peu plus. Difficile de, tu sais, de quel côté tu préfères, tu dis, les assurances qui aillent se promener puis mettez vos meilleurs joueurs ou, tu sais. Fait que c'est pas un dossier qui est si évident que ça, là, à régler. Tu as parlé de l'âge des joueurs. Mais tu sais, moi, si j'investis 25-30 millions là, sur un joueur étoile, puis je veux qu'il passe l'année avec moi, c'est sûr que. Mais en même temps, tu sais, je reviens à Édouard Julien. Édouard Julien qui dit ah, ben là, je ne sais pas si je vais participer à la classique, parce que là, évidemment, j'ai une nouvelle équipe avec les Rockies. C'est tout à fait justifié de parler ainsi. Mais en même temps, quelle vitrine extraordinaire d'aller affronter l'équipe américaine avec ses joueurs étoiles, puis de t'imposer là-bas. Puis là, tu sais, fait que. C'est pas toujours facile de prendre des décisions à savoir c'est laquelle la meilleure pour toi, mais ça peut avoir une influence sur tout le pays parce que le pays compte sur toi pour être là. Fait que, je suis d'accord avec toi, moi. J'aime beaucoup la classique mondiale. Je sais pas si c'est le meilleur moment de l'année. Je sais pas s'il y en a vraiment un meilleur moment de l'année. On pourrait tout régler ça en mettant le baseball un sport olympique, puis à tous les 4 ans, on aurait les meilleurs, mais bon. Ça serait trop facile peut-être, ou trop compliqué, c'est selon. Mais toujours est-il que je trouve ça, tu sais, c'est drôle, le classique mondial. On va regarder ça au mois de mars, on va tout être excité, puis on va voir des... Tu sais, rappelez-vous, lorsque Shohei Ohtani a affronté Mike Trout, là, c'était du bonbon, cette affaire-là. Là. Mm-hmm. Puis là, pouf, on retourne dans des matchs de camp d'entraînement. Puis là, ben, on se prépare tranquillement pour la saison. Fait que, tu sais, c'est comme... Je sais pas. Ça fait un peu spécial tout ça là, dans la façon dont ça se déroule. Puis honnêtement, ça complique aussi beaucoup la préparation des équipes. Parce que là, évidemment, écoute, la classique mondiale, c'est au début du mois de mars. Fait que les gars là, qui vont se présenter à l'équipe, mettons, américaine ou peu importe, là, ben là, tu vas te présenter là quand va être à peine commencé le camp d'entraînement de ton équipe. Puis là, ben, tu t'en vas déjà pour le camp d'entraînement de l'équipe de ton pays. Puis là, ça va être compétition, compétition, compétition. Puis là, après ça, tu vas retourner ou là, tu vas vouloir un peu de repos. Fait que tu n'auras pas joué une tonne de matchs préparatoires avec ta propre équipe. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des défis, il y a des grands défis. Mais pour le spectateur, c'est quand même pas mal le fun d'avoir une compétition de ça.
Ben oui, d'avoir les meilleurs. Comme tu le mentionnes, Marc, on se croise les doigts pour que finalement, on s'engage à jouer aux Olympiques. T'sais, tous les autres sports le font. C'est vrai que le soccer, c'est dans l'entre-saison que ça se passe. Pour la plupart des autres sports, d'ailleurs, t'sais, au basketball, on est dans l'entre-saison lorsqu'on joue. Mais si on veut globaliser le baseball, le faire connaître, regarde, je pense qu'on n'a pas le choix là, à un moment donné de dire, regarde, à partir du moment où plus de gens s'intéressent au baseball, ben c'est sûr que les propriétaires éventuellement vont trouver leur compte. Regarde, c'est là que ça se passe d'habitude, là. Donc, plus de consommateurs vont s'intéresser au baseball, mieux ce sera pour les propriétaires. Mais ça, regarde, on se croise les doigts, on n'a pas de décision là-dessus, mais c'est ce qu'on souhaite, de voir les meilleurs contre les meilleurs éventuellement. Marc, on va finir. C'est un entrefilet que j'ai vu au cours de la fin de semaine. David Robertson prend sa retraite. Il a joué à peu près partout ce qu'il a pu. C'est pas compliqué. Et quand je dis, c'est-à-dire, il a joué au baseball majeur, il a joué aux Olympiques, il a gagné une médaille d'argent, il a gagné la Série mondiale. Je pense qu'on peut retenir que c'était un bon soldat partout où il est passé dans l'ensemble de sa carrière. Il a été le second en début de carrière de Mariano Rivera, de qui il a appris sa balle rapide coupée. Et par la suite, releveur numéro 1 en fin de carrière, je veux pas le prendre péjoratif, Marc, mais c'est un mercenaire là, qui était recherché par les équipes qui avaient besoin de quelqu'un en fin de saison pour les séries. Donc, c'était une belle carrière pour quelqu'un qui, à prime abord, n'avait peut-être pas le profil de quelqu'un qui était pour jouer aussi longtemps.
Ben, écoute, tu l'as dit, Bétis, sa réputation s'est faite lorsqu'il était le second de Mariano Rivera. Puis après ça, ben, il a essayé de bâtir sa carrière, mais tu sais, au point où il a fallu qu'il aille aux Jeux olympiques.
Oui, pour se refaire.
Tu sais, pour se refaire un nom, puis après ça, ben, ça, évidemment, ça l'a aidé à poursuivre sa carrière un petit peu plus, mais écoute, tu l'as dit, c'est un très, très bon soldat, c'est un gars qui a donné, ben, c'est toute une carrière, là. Je pense que les gens, s'il y a une position qui est pas évidente, je sais qu'il y a beaucoup de releveurs, hein, ça vient puis ça va, puis c'est une des positions où ça change le plus souvent. Là, regardez les Blue Jays de Toronto. Hein, c'était jamais les mêmes releveurs année après année. Puis bon. Mais c'est pas facile comme emploi, si tu veux. Puis de naviguer là-dedans, puis de trouver un nouveau lancer qui va surprendre. Puis alors, bravo, c'est toute une belle carrière de sa part. Puis c'est jamais des moments faciles, Alain, de prendre cette fameuse décision-là. Là, de se dire, c'est terminé. Tu regardes. Tu sais, Oui, il y a beaucoup d'argent, Alain, mais souvent, c'est les gars veulent encore. T'sais, tu veux pas t'en aller de ça, là, d'être entouré de coéquipiers, la vie dans le baseball. Tu veux t'accrocher à ça le plus longtemps possible, puis finalement, de prendre cette décision-là est pas souvent facile. Alors, bravo. À l'aube des camps d'entraînement qui vont s'amorcer très bientôt, c'est une sage décision de sa part, puis on lui souhaite le meilleur pour la suite.
Oui, et Marc, je veux juste préciser, 5 et 11, c'est ce qu'on lui donne, et choix de 17e ronde, 2 ans après avoir été repêché, il était dans le baseball majeur. Il a forcé la main au Yankees.
5 et 11, la main, hein? 5 et 11. Ben, premièrement, tu sais que dans le baseball, 5 et 11, ça n'existe pas. OK? 5 et 11, ça veut dire qu'il est 5 et 10. Parce qu'à 5 et 10, c'est sûr que personne ne te regarde, mais à 5 et 11, t'es prêt de 6. Puis si t'es 5 et 11, tu mets 6 pieds. C'est aussi simple que ça. Fait que 5 et 11, si on t'indique que t'es 5 et 11, là, t'es pas vraiment plus petit que ça. Alors, il y a des équipes qui l'ont vraiment, jamais vraiment regardé, parce qu'il y a des équipes qui regardent des joueurs seulement à partir de 6 pieds. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a 30 organisations, 30 philosophies différentes. Mais bravo d'avoir eu cette belle carrière-là. Surtout un repêché tard, pas un physique imposant, et d'avoir réussi à avoir une carrière de la sorte, ça c'est... Disons qu'il a dû en baver un petit peu.
Oui. Chad Fonville, 5 et 6, Marc, c'était pas tout à fait ça, j'ai l'impression, non plus.
Non, lui, c'est probablement bas.
T'es plus proche de 5 et 4, ton impression avec lui. C'est le plus petit que j'ai vu chez les Expos. T'en as vu plus que moi, Marc. Mais t'es plus petit que lui, je suis pas sûr qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire des Expos. Là. Un petit vite.
Non, mais en tout cas, mais il y a de la place. T'sais, on regarde aujourd'hui, on a parlé d'Harrison Bader, qui n'est pas très grand, qui va avoir un impact. Moi, je trouve que s'il y a un sport, je me répète souvent, mais s'il y a un sport où tu ne devrais pas regarder, c'est sûr que tout le monde veut voir ton voltigeur de centre de 6 et 4, 190 livres, qui court comme le vent puis qui frappe avec puissance. C'est clair que tout le monde recherche ce gars-là. Mookie Betts, pas pire. Alex Bregman, pas pire. On pourrait en nommer pas mal les gars qui sont pas physiquement les plus costauds, mais qui jouent à balle, par exemple.
Effectivement. Ben voilà ce qui complète ce balado. Évidemment, il y a eu beaucoup d'actions au cours des derniers sommets depuis notre balado. Le camp d'entraînement commence très bientôt, donc il y aura beaucoup de nouvelles. Il reste encore des joueurs autonomes de qualité. Ça aussi, on va surveiller le tout. On est encore en plein milieu de l'hiver, mais le soleil, le printemps s'en vient avec les camps d'entraînement du baseball. C'est un excellent signe. Marc, merci beaucoup pour d'avoir été là. Merci à Martin Villeneuve, à la technique qui nous aide à concevoir ce balado. Alain Huzreau avec vous. Et on se souhaite un bon camp d'entraînement de baseball. C'est très bientôt, dans une dizaine de jours. Salut tout le monde.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay. Fiers partenaires de votre passion.